madame, monsieur, merci de choisir VOA Afrique pour vous informer. Nanit Talani en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le sommaire. L'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC face à l'escalade du conflit. Cyril Ramaphosa rejette les menaces des États-Unis et promet de protéger la souveraineté de l'Afrique du Sud. Dans nos dossiers du jour, projection sur l'Antiam, la danse des quartiers de Libreville qui défie la violence et conquiert le Gabon.
Il n'y a qu'un jeune qui vit dans nos quartiers qui peut comprendre ce que l'Antiam dit. L'Antiam n'est pas un mouvement de violence ou d'incitation à la haine.
En économie, nous verrons des solutions innovantes que le Gabon met en place pour le transport dans sa capitale, Libreville, avec des parkings intelligents et des feux tricolores. Côté sport, nous reviendrons sur la retraite de la star brésilienne Marcelo après une carrière légendaire. Tout de suite, les infos. Faites taire les armes, arrêtez l'escalade dans l'est de la République démocratique du Congo, a lancé hier le secrétaire général de l'ONU en s'inquiétant une nouvelle fois que le conflit se propage à la région entière. Les explications à ce sujet de Dili Diko.
Nous sommes à un moment critique et il est temps de s'unir pour la paix, a déclaré Antonio Guterres à la presse. Avant de se rendre la semaine prochaine à une réunion de l'Union africaine à Addis Abeba sur ce sujet, il a ajouté « respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ». Il n'y a pas de solution militaire. Après s'être emparé la semaine dernière de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, le groupe armé M23 et les troupes rwandaises ont lancé mercredi une nouvelle offensive dans la province voisine du Sud Kivu et conquis la cité minière de Nyabibwe à environ 100 km de Bukavu. Rompant le cessez-le-feu qu'il a lui-même décrété, le M23 a d'autre part assuré jeudi vouloir, je cite, « libérer tout le Congo ». Antonio Guterres s'est inquiété de la situation humanitaire dangereuse à Goma et autour. Il a évoqué des milliers de personnes déplacées, un système de santé submergé et des services d'eau, d'électricité et Internet très limités.
Par ailleurs, les 47 membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU décideront ce vendredi s'ils envoient en urgence une mission d'enquête sur les exactions commises dans l'est de la RDC, théâtre de violents combats. Kinshasa a demandé cette réunion extraordinaire avec le soutien de près de 30 membres du Conseil, dont la Belgique et la France, pour examiner la crise dans l'est du pays. Au Soudan, l'armée était jeudi à l'offensive sur plusieurs axes pour s'emparer du centre de Khartoum, tenu depuis près de 2 ans par leurs adversaires. Une intensification des combats qui intervient alors que l'escalade de la violence a provoqué une hécatombe dans les hôpitaux du pays. Mouamadou Oufa nous fournit davantage de précisions.
L'offensive des militaires pour reprendre le contrôle total de la capitale lui a permis d'être à 2 doigts d'atteindre le centre de Khartoum et d'expulser la milice d'Aglo jeudi, a déclaré une source militaire faisant référence au chef des FSR, Force de soutien rapide, Mohamed Hamdan Daglo. Mercredi, l'armée a annoncé avoir nettoyé les quartiers d'Al-Remila et de la zone industrielle dans le centre de Khartoum à 3 km du palais présidentiel. Un responsable des FSR a affirmé dans un communiqué que les paramilitaires avaient repoussé toutes les attaques et que les informations faisant état d'une avancée des militaires ne sont que mensonges et rumeurs. Des témoins ont déclaré jeudi que l'avance de l'armée était ralentie par les tireurs embusqués des paramilitaires postés sur des immeubles dans ce qui fut le quartier des affaires et du gouvernement. D'autres témoins ont signalé des affrontements autour du pont de Soba, point d'entrée clé du sud-est de la capitale. Selon la source militaire, les troupes de l'est du pays sont sur le point de faire leur jonction avec les forces venant de l'état d'Al Jazeera, juste au sud de la capitale.
L'Afrique du Sud ne se laissera pas intimider, ce sont les mots de son président Cyril Ramaphosa devant les députés réunis au Cap pour son discours annuel sur l'état de la nation. Pour en savoir plus, Yacouba Ouédraogo nous éclaire.
Nous ne nous laisserons pas décourager. Nous sommes, en tant que Sud-Africains, un peuple résilient et on ne se laissera pas intimider. C'est ce qu'a déclaré le président Cyril Ramaphosa. Cette semaine, le président Donald Trump a affirmé que l'Afrique du Sud confisque des terres et traite très mal certaines catégories de personnes et qu'en conséquence, il couperait tout financement futur à destination de Pretoria. Sur son réseau social X, Elon Musk, proche du président américain et né dans la capitale sud-africaine, a accusé son pays de naissance d'avoir des lois sur la propriété ouvertement racistes. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a annoncé ne pas se rendre à Johannesburg pour une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 les 20 et 21 février, taxant l'Afrique du Sud d'anti-américanisme. Le président Ramaphosa s'est aussi dit préoccupé par le gel par Donald Trump de quasiment toute aide internationale pour 90 jours. Il a ajouté que l'aide américaine représente environ 17% des dépenses de son pays en matière de lutte contre le VIH, précisant que son administration prendra des mesures pour répondre aux besoins immédiats et assurer la continuité des services essentiels.
En Guinée-Bissau, le président Oumaro Sissoko Embalo a rejeté les allégations de l'opposition concernant la fin de son mandat qu'il fixe au 4 septembre 2025 en se basant sur une décision de la Cour suprême. La date de fin de son mandat a été un sujet de polémique avec son rival, l'ex-premier ministre Domingos Simões Pereira, qui conteste cette date et la fixe au 27 février. Même si mon mandat se termine le 27 février, comme le prétendent certains politiciens, la loi fondamentale du pays m'autorise à rester au pouvoir jusqu'à l'investiture du nouveau président. La polémique autour de la fin de mon mandat, c'est du théâtre, a affirmé hier à la presse M. Embalo après un conseil des ministres. Les élections législatives, prévues en novembre 2024, ont été reportées en raison des difficultés logistiques et financières. Une députée européenne, Marina Mesur, a dénoncé, je cite, « la répression sanglante d'une manifestation de travailleurs du secteur sucrier en Gauteng, au Cameroun, où des grévistes réclamaient des arriérés de salaire à la direction de l'entreprise ». D'après Marina Mesur, les autorités locales ont réprimé la manifestation, causant plusieurs morts. Parmi eux, bien que le gouverneur de la région ait affirmé qu'un seul ouvrier était décédé. D'après l'élu, les salariés de la Sosucam ont entamé une grève fin janvier, réclamant leurs arriérés à la direction de l'entreprise. Les autorités locales ont réprimé les manifestations et diverses sources médiatiques concordantes rapportent plusieurs morts parmi les manifestants. La députée a critiqué cette violence, la violation des droits des travailleurs et la liberté syndicale. Elle a interpellé la Commission européenne sur les mesures à prendre pour défendre les droits des employés de la filière sucrière et la responsabilité de l'entreprise.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un nouveau contingent de policiers kényans est arrivé jeudi à Port-au-Prince pour la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, confrontée à la violence endémique de gangs armés. 144 policiers supplémentaires, selon le Kenya, ont été déployés jeudi en Haïti après un premier nouveau contingent étranger de 60 militaires salvadoriens arrivé mardi dans ce pays des Caraïbes. Le Kenya avait déjà envoyé 400 policiers en décembre et 217 le mois dernier. Ces nouveaux renforts viennent renforcer la mission multinationale d'appui à la sécurité déployée en Haïti depuis juin dernier. La MMAS ne fait pas partie des forces onusiennes, mais l'ONU a créé un fonds volontaire pour la financer et qui a jusqu'à présent recueilli 110 millions de dollars, un montant jugé insuffisant. L'administration Trump, qui promettait de longue date un bras de fer juridique avec les États sanctuaires protégeant les migrants, a lancé hier des poursuites contre l'État démocrate de l'Illinois et la ville de Chicago. Alexandrine Holognon nous livre plus d'informations.
Le ministère de la Justice a déposé une plainte réclamant l'annulation de lois locales qui interdisent à la police d'arrêter des personnes en fonction de leur statut d'immigration et limite les informations qu'elle peut partager sur les immigrants avec les autorités fédérales. Selon la plainte, grâce à ces lois, des immigrants présentant des menaces importantes pour la sécurité nationale et la sécurité publique trouvent refuge loin des forces de l'ordre fédéral dans les soi-disant villes sanctuaires. L'administration Donald Trump estime que ces lois sont inconstitutionnelles car aux États-Unis, l'immigration est une compétence du gouvernement fédéral. Les villes sanctuaires sont des sanctuaires pour les criminels, a estimé jeudi Tom Homan, le responsable de la politique d'expulsion du président américain. Un porte-parole du gouverneur de l'Illinois a assuré jeudi que l'État a hâte de régler cette affaire au tribunal. Ces juridictions, pour la plupart démocrates, se comptent par dizaines aux États-Unis, avec en tête de file la Californie. Le premier mandat de Donald Trump avait déjà été marqué par de nombreuses batailles judiciaires entre son administration et les États et villes sanctuaires.
La présidence de l'Ukraine affirme être prête à ouvrir un couloir humanitaire afin de permettre l'évacuation de centaines de civils russes vivant dans les parties qu'elle occupe de la région frontalière russe de Koursk, si Moscou le demande. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de l'actualité. Vous suivez le journal sur VOA Afrique, à réécouter sur voaafrique.com. À présent, la page économique avec Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, la première édition du Forum ImTech Santé se termine aujourd'hui à Abidjan. Dédié à l'innovation technologique dans le traitement et la prise en charge des malades, cet événement réunit experts, ONG et start-up pour améliorer l'accès aux soins de santé et intégrer les technologies dans les pratiques médicales. Au Gabon, Libreville, la capitale, va se doter de solutions innovantes dans les transports, comme des parkings rotatifs et l'installation de feux tricolores intelligents. Le ministre gabonais des Transports a signé un mémorandum d'entente avec la société DSD, spécialisée dans la numérisation, qui va également moderniser les documents de transport, tels que les permis de conduire et les cartes grises. Des droits de douane universels imposés à l'ensemble des produits entrant aux États-Unis doivent être étudiés et envisagés, a estimé hier le probable représentant de la Maison-Blanche au commerce, Jamison Greer. Selon M. Greer, il convient de s'assurer que de telles taxes pourraient inverser à la fois le déficit commercial et la délocalisation et créer les conditions d'une concurrence équitable.
On passe sans plus tarder au segment sportif présenté par Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Transfert pour commencer, Naomi Eto signe à Guipa chez les dames.
Oui, à 20 ans, la joueuse des Lions indomptables du Cameroun quitte ainsi les forces armées et police club de Yaoundé pour rejoindre le club français en Ligue 1 féminine. Naomi Eto rejoint Guingamp avec un contrat de 6 mois, soit jusqu'en juin 2025. Elle devrait aider le club à se maintenir en première division puisque Guingamp occupe la dernière place du classement et lutte pour éviter la relégation en D2. Elle a été la révélation du mondial féminin des moins de 20 ans l'année dernière, disputée en Colombie. L'attaquante camerounaise a inscrit 4 buts.
Mario Lemina, lui, rejoint Galatasaray.
Le milieu de terrain gabonais s'est engagé avec Galatasaray en provenance de Wolverhampton, annonce faite par le club turc. Un contrat d'une saison et demie avec une saison supplémentaire en option a été signé avec le joueur selon le leader du championnat de Turquie qui avait déjà accueilli Mario Lemina en prêt lors de la saison 2019-2020. Le montant du transfert s'élève à 2,5 millions d'euros, précise Galatasaray. L'international gabonais de 31 ans avait rejoint Wolverhampton en janvier 2023 en provenance de l'OGC Nice.
Et puis pour terminer, Yakuba, Marcelo raccroche les crampons.
Le Brésilien, longtemps considéré comme un des meilleurs latéraux au monde, a annoncé hier qu'il mettait un terme à sa carrière. « Mon histoire en tant que joueur se termine ici, mais j'ai encore beaucoup à donner au football », a déclaré l'ancien international de 36 ans dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Marcelo, ex-latéral gauche emblématique du Real Madrid, a décidé de ranger les crampons 3 mois après avoir résilié son contrat avec Fluminense, son club formateur où il était revenu en 2023. Tout au long de sa carrière débutée en 2005 dans ce club de Rio de Janeiro, sa ville natale, Marcelo s'est forgé un palmarès impressionnant soulevant 25 trophées en 15 ans avec le Real Madrid, dont 5 en Ligue des Champions. Arrivé dans la capitale espagnole à 18 ans, il a aussi remporté 6 titres de champion national avec les Merengues. Avec Fluminense, le latéral gauche brésilien a remporté la Copa Libertadores fin 2023, mais a fini par quitter le club plus tôt que prévu. Après un désaccord avec son entraîneur en novembre, avec la Seleção, Marcelo a disputé 58 matchs et remporté la Coupe des Confédérations en 2013. Il a aussi disputé les Mondiaux 2014 et 2018.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à réécouter sur voaafrique.com. Nanit Talani de retour dans ce studio pour vous présenter notre section magazine. La situation humanitaire dans l'est de la RDC s'est gravement détériorée, portant à 4,6 millions le nombre de déplacés. Les besoins en nourriture, abris, soins de santé et protection sont urgents. La guerre exacerbe la crise, impactant l'accès humanitaire et la sécurité des populations civiles qui sont prises en étau. Le Conseil norvégien pour les réfugiés appelle à la fin du conflit. Eric Manirakiza a joint à Dakar, au Sénégal, la porte-parole régionale Christelle Our.
Dans l'ensemble, en fait, les besoins sont bien sûr énormes. Hein. C'est vraiment des besoins urgents qui comprennent la nourriture, les abris, l'accès à l'eau et bien sûr l'accès aux soins de santé. Et en plus de ça, on a déjà beaucoup de témoignages sur les atrocités qui ont été commises, en fait, pendant les combats, avec des homicides, beaucoup de violences sexuelles. Donc, il y aura aussi énormément de besoins en termes de protection. On sait que les établissements de santé sont complètement submergés, encore par l'afflux de blessés, qu'il y a eu énormément de morts.
Vous, le Conseil norvégien se trouve sur le terrain, il y a d'autres organisations humanitaires. Est-ce que vous êtes dépassé par la situation actuelle?
La semaine dernière, ce qui était extrêmement compliqué, c'est que personne ne pouvait sortir, ne pouvait bouger. Nous, on a eu une partie de l'équipe qui a été évacuée côté Rwanda, mais aussi une partie de l'équipe qui est restée à Goma. Et après, il y a des zones qui sont plus dans le nord Kivu, par exemple dans le territoire Lubero. Donc là, pour l'instant, l'aéroport n'est pas utilisable parce qu'il y a beaucoup de restes de guerre qui sont encore sur l'aéroport. Donc il y a vraiment besoin aussi de pouvoir déminer tout ça. Et puis, les besoins sont tellement énormes qu'il va falloir aussi réapprovisionner les stocks. Sachant qu'on a des stocks qui sont déjà disponibles, notamment au niveau de NRC, mais qui ne permettent pas, voilà, pour l'instant, de répondre à l'ampleur des besoins.
Alors, il y a eu une trêve éphémère. On parle de la reprise des combats. Que faut-il présager si la guerre doit continuer?
Si la guerre doit continuer, les enjeux pour une organisation humanitaire comme NRC, c'est vraiment avant tout de s'assurer que l'accès humanitaire soit maintenu. C'est-à-dire que les organisations puissent avoir accès aux populations et que les populations aussi puissent avoir accès à l'aide humanitaire. Ce qui veut dire qu'en fonction de la situation, ça peut vouloir dire donc de dialoguer avec toutes les parties au conflit pour s'assurer que les organisations humanitaires ne seront pas ciblées parce qu'elles font leur travail d'aller aider les populations. Et donc ça va être un énorme enjeu. L'autre gros enjeu, ça va être aussi d'assurer la protection des civils. Comment s'assurer qu'il y ait une bonne distinction, qu'il n'y ait pas d'attaque, par exemple, sur les sites de déplacés, qu'il y ait une distinction très claire entre les parties prenantes au conflit, celles qui sont en train de faire la guerre, et tous les autres civils qui doivent être préservés. Si la crise continue, et même si elle ne continue pas, encore une fois, c'est les financements. Si la crise continue, c'est évident que ça veut dire toujours plus de besoins, toujours plus de mouvements de population. Et encore une fois, un gros enjeu, ne serait-ce que pour comprendre, savoir où sont ces populations et pouvoir avoir accès à ces populations, ne serait-ce que pour évaluer leurs besoins.
Évidemment, ce qu'il faut souhaiter, c'est la fin de la guerre, n'est-ce pas?
Sûr, évidemment. Et c'est la première demande d'organisation humanitaire de s'assurer à ce que la la préoccupation des populations civiles qui sont prises en étau soit au cœur des débats en ce qui concerne la fin de la guerre.
Christelle Hur, porte-parole régionale du Conseil norvégien pour les réfugiés, joint à Dakar.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
L'Office de l'industrie et de la commercialisation du tabac du Zimbabwe se montre optimiste quant à la récolte du tabac de cette année, estimant que la production pourrait atteindre 300 millions de kilogrammes si la pluviométrie reste favorable. Le président de l'Office de l'industrie et de la commercialisation du tabac du Zimbabwe, Patrick Devenich, se dit confiant malgré la sécheresse provoquée par El Niño l'année dernière. M. Devenich a également souligné le potentiel d'utilisation de l'eau stockée disponible grâce aux investissements du gouvernement dans les barrages. Mais selon lui, la prochaine étape consiste à développer l'infrastructure d'irrigation afin d'utiliser cette eau stockée. Patrick Devenich.
The crop was planted late.
La culture a été semée tardivement. En fait, nous aimerions qu'elle soit plantée avant la fin du mois de décembre, mais elle a été plantée tardivement en attendant les pluies. Mais maintenant, avec les bonnes pluies que nous avons, il semble que nous pourrions atteindre les 300 millions de kilogrammes, bien que cela dépende maintenant de bonnes pluies en février et, espérons-le, en mars également.
Patrick Devenich revient également sur les efforts du gouvernement pour améliorer l'irrigation agricole. Il explique les défis à surmonter afin de fournir de l'eau aux petites exploitations agricoles. Une fois de plus, Patrick Devenich.
Notre gouvernement et notre ministère construisent un grand nombre de barrages. Nous avons donc beaucoup d'eau stockée. Mais l'étape suivante consiste à assurer l'irrigation. Beaucoup de petites exploitations agricoles n'ont pas d'électricité. Ces systèmes d'irrigation devront donc être alimentés par l'énergie solaire ou d'autres énergies alternatives. Mais oui, il s'agit d'étendre notre infrastructure d'irrigation.
Bien que les conditions climatiques restent un facteur clé pour la récolte, les investissements dans les infrastructures hydrauliques et l'irrigation devraient aider à soutenir l'agriculture au Zimbabwe.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Après la récente découverte d'un tunnel clandestin reliant les villes américaines d'El Paso et mexicaines de Juarez, les autorités mexicaines ont lancé une opération visant à découvrir d'autres passages souterrains illégaux. Un reportage de César Contreras. Récit de Dilidico.
Ce passage secret illégal relie la ville mexicaine de Ciudad Juárez à la ville américaine d'El Paso au Texas. Le tunnel sous le fleuve Rio Grande mesure un peu plus d'un mètre de large et près de 2 mètres de haut. Il est relié à un réseau d'égouts pluviaux et est équipé d'un éclairage et d'une ventilation. Écoutons le général José Lemus Cisneros, commandant de la garnison militaire de Ciudad Juárez.
Il est bordé de poutres en bois, comme vous pouvez le constater. Il y a des poutres, il y a du bois pour éviter les effondrements.
Les autorités pensent que cette voie souterraine était utilisée pour faire passer clandestinement des migrants et de la drogue du Mexique vers les États-Unis. Les agents de la patrouille frontalière américaine d'El Paso ont découvert le tunnel le 9 janvier lors de l'inspection d'un collecteur d'eau pluviale et ont commencé à le fermer du côté nord de la frontière une semaine plus tard. Les autorités mexicaines ont commencé à fermer le tunnel de leur côté et disent en chercher d'autres. À nouveau, le général José Lemus Cisneros, commandant de la garnison militaire de Ciudad Juárez.
Nous avons intensifié nos activités de recherche pour détecter d'autres tunnels s'il y en a. Notre présence sera maintenue en permanence.
Le gouvernement mexicain a renforcé les patrouilles au point stratégique de Ciudad Juárez afin d'empêcher les migrants de se retrouver piégés dans les tunnels ou d'être victimes de trafic humain lorsqu'ils tentent de franchir illégalement la frontière. Gilberto Loya est directeur de la sécurité publique de Chihuahua.
Notre objectif principal est de protéger les migrants et de veiller à ce qu'ils ne risquent pas leur vie en tentant d'entrer illégalement aux États-Unis. Cependant, suite à la découverte de ce tunnel, nous nous concentrons également sur la recherche d'autres tunnels dans la région.
Les enquêtes se poursuivent et les autorités mexicaines ont réitéré leur engagement à fermer les routes illégales le long de la frontière.
Salut tout le monde, ici c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Chaque semaine donc, c'est ton genre super fast, super sonique, super rapidos. Vous voyagez avec nous dans une belle ambiance musicale. Nos sujets socio-culturels hebdomadaires, nos invités de marque et nos segments du jour, l'anglais, le sport, la comédie et l'actualité en bref. Les tout, dont RM Show, chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Envoyez-nous vos messages audio au +1 703 350 37 31.
Chers passagers, ne ratez pas votre avion supersonique super rapidos.
Jobless. Peace Africa.
Avant de clore ce journal, allons à la découverte de l'Antiam, un concept musical qui a conquis la jeunesse gabonaise. Née en milieu carcéral, cette danse exprime toute la violence des quartiers populaires, les braquages, les agressions. Si l'Antiam irrigue désormais tous les milieux sociaux, elle puise ses origines aux racines les plus populaires du Gabon. C'est presque un mode de vie des jeunes des quartiers populaires de la capitale gabonaise. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzé.
Les hauteurs de Texas, un ghetto de la banlieue sud de Libreville, servent de terrain d'entraînement à l'artiste Oni Mister Vava et son groupe. Des pas de claquettes et des mouvements synchronisés au rythme afro, l'Antiam est partout dans la rue. Issue des codifications chorégraphiques des détenus, cette danse de la liberté reconquise s'est muée en véritable phénomène de société au Gabon.
Il n'y a qu'un jeune qui vit dans nos quartiers qui peut comprendre ce que l'Antiam dit. L'Antiam n'est pas un mouvement de violence ou d'incitation à la haine. On a des exemples aujourd'hui des artistes qui viennent d'en bas, qui aujourd'hui, de par leur musique, ont réussi.
Jive Pamesso, alias Oni, est diplômé en marketing et communication. À ses heures perdues, il vient aux répétitions pour préparer son tout premier album. Ambition de son équipe, rejoindre le club encore restreint des artistes qui font résonner ce rythme au-delà des frontières du Gabon.
On s'entend tous les jours. Ce sont aussi des artistes qui font sortir de la musique. Et ça nous inspire aussi à danser. Exprimer l'Antiam revient à donner aussi, à faire passer aussi un message au gouvernement pour qu'ils puissent aussi essayer aussi de voir aussi les conditions de vie de leurs enfants qui sont dans les bas quartiers.
Dans ce déluge de sons hybrides entre tradition et modernité, émergent des figures aussi charismatiques qu'improbables, à l'image de l'oiseau rare, des Boloko ou du général Itachi, véritables icônes de l'Antiam. Leur texte désinvolte charrie indistinctement l'argot local et un français de quartier. Responsable du pôle audiovisuel de la radio Urbaine FM à Libreville, Fallon Ndambo a récemment travaillé sur ce phénomène musical.
C'est des personnes qui ont su se remettre en question et qui ont su prendre leur vie et leur destin en main. Ils se servent de cette musique pour raconter leur vécu, peut-être des mauvaises actions qu'ils ont faites, mais aussi il y en a qui se servent pour conseiller.
De la violence des rues aux peines de prison, en passant par l'amour et la quête d'un emploi, les thèmes abordés par ces sonorités fiévreuses transcendent les réalités locales. Elles portent le plaidoyer des jeunes en difficulté sociale.
Si on insiste avec le mouvement, on peut pourquoi pas se faire entendre de par notre musique et notre danse.
Pour se faire connaître au-delà des frontières gabonaises, les artistes de l'Antiam mettent au point des stratégies de promotion qui reposent quasi exclusivement sur les réseaux sociaux. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Rejoignez-nous chaque vendredi à 19h30 TU dans l'Amérique et vous. L'Amérique et vous, explorez les liens sociopolitiques et culturels entre l'Amérique et l'Afrique. L'Amérique et vous, l'émission qui réunit les deux continents dans un échange vibrant d'idées et de perspectives. Participez à la conversation sur les moyens de renforcer les liens entre l'Afrique et l'Amérique. Rejoignez-nous dans l'Amérique et vous, votre dose hebdomadaire d'échanges culturels et des discussions informatives sur l'Afrique et les États-Unis. L'Amérique et vous, c'est chaque vendredi sur VOA Afrique.
C'est ainsi que se termine notre édition d'aujourd'hui. Je suis Nanit Talani, à la réalisation Firmé Max Kouyaouida, à la technique Kelvin Fowler. Merci de nous avoir écoutés et un grand merci à notre équipe de rédaction et nos reporters pour leur travail exceptionnel. Au revoir et à bientôt.